Blanche, large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Plan large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Barbara Deprat, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef d'entreprise, vous êtes membre de la CVCI, la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie. Chef d'entreprise chablaisienne, j'ai oublié de le préciser. Hein. Vous dirigez l'entreprise Tech Laser à Villeneuve. On va parler un petit peu de ce monde de la métallurgie hein, qui est votre monde. Mais d'abord, le lieu où vous m'avez donné rendez-vous. Alors, je dois dire que là, vous entrez au moins en altitude dans mon top, hein, peut-être même sur la plus haute marche du podium. On est à 3000 mètres.
Voilà, en effet, je vous ai invité à venir me rencontrer à Glacier 3000, que je trouve être une belle image pour me représenter. Il y a beaucoup de choses qui rentraient dans ce choix. Il y a la montagne, bien évidemment, moi qui ai grandi, qui ai passé une bonne partie de mon temps en Gruyère. C'est pas Molaison, mais ça fait rien, c'est quand même un fleuron. C'est un endroit qui a été reconstruit. J'ai dû me reconstruire aussi. Botta, qui est l'architecte.
On est dans le restaurant Botta, donc de Glacier 3000.
Hein. Exactement, ouais. On est au restaurant. J'ai choisi exprès aussi parce que cet architecte a un choix de matériaux. Et moi, j'ai fait des études d'archi. Donc, il y a plein de choses qui me rappelaient vraiment ce côté nature, ce côté atteindre des sommets. Je pense que beaucoup de choses me représentent dans ce choix.
Alors, on va revenir un peu sur quelques-uns des points, pas forcément sur votre enfance dans les préalpes fribourgeoises qu'on imagine volontiers gambadant dans les prairies du Molaison. Hein, vous l'avez cité, c'est la montagne emblématique du canton de Fribourg, il en faut bien une. J'aimerais revenir sur ce lieu hein, qui a brûlé, qui est donc tout neuf. Là, c'était il n'y a pas si longtemps. Les travaux ont été rapides. Mario Botta, qui est l'architecte du lieu, a repris son dossier hein, des dizaines d'années après. C'est une belle histoire. Vous avez dit, moi aussi, j'ai dû me reconstruire. On va y aller tout de suite. Hein. C'est une particularité très étonnante de votre parcours. Quel est cet épisode qui vous a forcé à vous reconstruire?
Alors, j'ai eu un grave accident de voiture hein, qui s'est passé il y a bien des années maintenant, mais quand même, j'avais 30 ans à l'époque, une fracture. Moi, je le vois souvent comme si on tombait dans un trou ou dans une, pour donner le monde des montagnes, comme dans les glaciers, on peut avoir tout d'un coup des trous, des crevasses. J'ai souvent imaginé une crevasse, qu'on glisse au fond d'une crevasse. Et mon parcours, c'est ça. C'est que tout d'un coup, en une fraction de seconde, la vie change parce qu'on est tombé en bas de cette crevasse et il va falloir remonter. Donc ici, ça a brûlé. Chez moi, c'était une descente au fond d'une crevasse avec beaucoup de monde opaque autour de moi. Me comprendre les autres, comprendre le monde. En une fraction de seconde, tout avait changé.
Bon, on va pas détailler l'accident, évidemment, mais vous le dites, il a fallu une reconstruction sérieuse. Hein, ce n'était pas un petit accident. Et puis, il y avait autour de vous plutôt des paroles de découragement. Hein. Le message, finalement, c'était... il faut s'habituer à vivre avec maintenant, c'est ça?
Oui, c'était vraiment le message qu'il y avait autour, qu'il fallait se reposer, qu'il fallait accepter le fait d'être diminué, d'avoir peu de potentiel, de devoir s'arrêter tout simplement. Alors, je n'avais pas tout à fait le caractère pour ça. Je voulais comprendre. Aussi, je ne comprenais pas que le regard autour de moi avait changé. Je faisais mille choses. J'ai toujours grandi avec des grands-parents qui avaient mille options, mille choses, qui travaillaient beaucoup. Et tout d'un coup, de devoir s'arrêter et de voir le monde fonctionner sans nous, sans moi, ce n'était pas possible. Je ne comprenais pas. Et le regard aussi des gens, j'avais plein de monde autour de moi. Tout d'un coup, plus personne. Les gens, les premières semaines, les premiers mois, les premières années, ils sont là. Mais comme vous l'avez dit, mon parcours a été très long, plus de 10 ans de reconstruction, plus longtemps que pour reconstruire le glacier 3000. Donc c'est toute une facette, il a fallu trouver des solutions.
Il y a reconstruction physique, il y a reconstruction mentale aussi.
Hein. Enfin,
elles sont parallèles évidemment.
Tout à fait. Les gens aussi ne comprennent pas, je jette la pierre à personne. Là, encore une fois, j'ai aucune amertume sur ce qui s'est passé, ni la réaction des gens autour de moi. C'est vrai qu'à un moment donné, j'ai perdu des amis, j'ai perdu de la famille, j'ai perdu beaucoup de choses, mais j'ai tellement gagné. Aujourd'hui, je me sens plutôt une chanceuse de la vie parce que ça m'a amenée sur des parcours que j'aurais probablement pas fait. Notamment ces études d'architecture que j'ai fait après pour me reconstruire. J'ai fait des études de psychologie aussi pour me reconstruire. J'ai cherché des méthodes pour retrouver des fonctions que j'avais perdues.
Alors, avant qu'on aille aux études, il y a une figure tutélaire. Hein, c'est amusant, c'est une anecdote dans ce parcours compliqué. Il y avait dans l'ancien temps ce qu'on appelait les rois thaumaturges. Hein, c'était les rois à qui on donnait des vertus de guérison. Comme ça, le vôtre, c'est Adolphe Ogui, c'est étonnant, l'ancien conseiller fédéral. Alors, il n'est pas venu faire une imposition des mains pour vous guérir, mais il y a des paroles qui vous ont marqué.
Oui, tout à fait. L'accident, je peux juste brièvement en parler. C'est à un moment donné où j'emmène mon fils à l'aéroport de Zurich, qui part rejoindre sa marraine qui est au Japon. Je le mets dans l'avion anciennement Swissair. À l'époque, une hôtesse accompagnait. Mon fils avait 5 ans à l'époque. Donc, je rentre dans l'avion, je transmets à l'hôtesse et il y avait dans cet avion Adolphe Ogui qui était là et qui a dit une parole « Il faut toujours y croire ». Je ne sais pas à qui il parlait ni quel contexte, par contre avec son petit accent bien marqué, hein, bien suisse-allemand, ça m'a marqué, je l'ai gardé. Cette phrase est arrivée un mois après mon accident, le jour même bien sûr quand j'ai eu cet accident on n'a pas pu partir. Mais un mois après, cette phrase m'a marqué, elle m'a accompagnée pendant plus de 10 ans. Et pour la petite histoire, j'ai fait mes études de psychologie, à la fin c'est toujours une personnalité qui vous remet le diplôme, on n'est pas prévenu qui vient, on est juste invité à retirer son diplôme. Et quand je suis rentrée dans la salle et la personnalité qui est arrivée, c'était Adolphe Ogui. Et c'est lui qui m'a remis le diplôme dans les mains.
Vous avez pu lui raconter votre histoire ?
Oui, alors ça a été vraiment une grande émotion pour moi, bien évidemment. Le responsable d'Unidistance qui était à côté de moi, le doyen, me dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Personne n'était au courant, je n'avais jamais évoqué cet accident. Pendant longtemps, ça a été, je ne savais pas ce que j'allais faire, ce que j'allais devenir, c'était très opaque. Mais j'avançais toujours. Je pense que c'est ça, c'est grâce à ces paroles, j'ai toujours cru que j'allais avoir un destin, lequel je ne savais pas. Mais je savais qu'il allait avoir eu un chemin.
Les études ont une importance cruciale dans votre reconstruction. Justement, vous avez évoqué Unidistance. C'est une façon de faire des études sans être contrainte d'aller au cours, de suivre le cursus universitaire des alma mater, donc des lieux physiques universitaires. Vous n'auriez pas pu suivre ces études. Peut-être que vous ne l'auriez pas fait si vous n'aviez pas été accidenté et vous n'auriez pas pu le faire en étant accidenté.
Tout à fait. En fait, il y a eu plusieurs choses. C'est que dans mon parcours, avec les différentes difficultés que j'avais, les conséquences de l'accident, avec un stress post-traumatique, avec un trauma crânien, avec une motricité des mains qui était un peu ralentie, il me fallait trouver des solutions. Au départ, j'ai fait quelques cours d'art pour apprendre à retenir un pinceau, retenir un crayon dans les mains. Et il fallait, je trouvais que je n'étais pas très performante. J'ai des exigences quand même, j'aime être, pouvoir faire les choses que j'ai envie de faire. Donc du coup, je suis partie en architecture, en fait, un petit peu comme ça. Je me suis dit, là, il faut être très précis. Donc, je suis partie en architecture à l'école Athénaeum à Lausanne, qui n'existe plus, mais qui avait un fondateur extraordinaire, Sartori, qui avait cette architecture pour tous. Ça m'avait touchée. Et je suis partie là pour essayer d'améliorer mes compétences motriciennes de mes mains. Et au début, j'en ai bavé parce que c'était pas évident. Mais petit à petit, j'ai réussi à retrouver 100% de mes fonctions des mains. Et après, j'ai attaqué le problème cognitif. J'oubliais beaucoup de choses. Au fur et à mesure, les nouvelles choses qui m'arrivaient, j'oubliais. Je vivais avec 100 000 post-it. Et j'avais toujours peur d'oublier quelque chose, notamment avec mes enfants. Donc j'ai décidé de m'attaquer aussi au cognitif. Il y avait une université américaine qui était spécialisée là-dedans et qui me disait qu'il fallait retrouver les fonctions qui avaient été, enfin les parts du cerveau qui avaient été écrasées, pas coupées mais vraiment écrasées, toutes ces connexions. Donc en faisant fonctionner le cerveau de manière plus forte, les études de psychologie et de droit sont les plus marquantes en termes de ce qu'il faut lire et d'apprendre. Je suis partie en psychologie parce que j'y connaissais rien, c'était à la page blanche. Le droit, j'avais quelques
bien
notions.
Vous aimez bien les défis, hein, on l'entend. Bon, je vous arrête parce que, évidemment, c'est intéressant ce parcours-là, hein, mais je crois qu'on a bien compris que cette volonté d'étudier vous a maintenu d'abord et puis fait progresser ensuite. Voilà, moi j'ai devant moi quelqu'un qui est sorti d'un grand traumatisme. Vous me parlez de motricité, de mobilité, ça ne se voit absolument plus. Vous êtes une miraculée, on peut appeler ça comme ça ?
Une chanceuse de la vie, parce que j'ai eu la chance de pouvoir trouver les bonnes options pour retrouver mes fonctions. J'ai appartenu à un groupe de traumatisés crâniens. Beaucoup n'ont pas retrouvé tout ce qu'ils voulaient, malgré avoir essayé certaines choses. Voilà, moi, je n'arrivais pas à me satisfaire des pronostics qu'on m'avait donnés. Et de prendre une consommation excessive de médicaments, ça ne me correspondait pas. À un moment donné, j'ai aussi pris le choix d'arrêter les médicaments, de diminuer cette phase et de trouver d'autres solutions. Et les études en ont fait partie.
Bon, pour finir cette première partie, j'aimerais qu'on parle un peu du lieu. On a évoqué plein de choses. Il y a la montagne quand même. Hein. Alors, vous avez visé haut. On est à 3000 mètres dans ce restaurant Botta de Glacier 3000. Voilà, on a notre pays sous les yeux. Hein. Vraiment, c'est extraordinaire. En plus, il fait un temps magnifique le jour où nous enregistrons. Les grands espaces, la montagne, la randonnée, la sortie, la prise d'air, la méditation, c'est quelque chose qui est important pour vous ?
Oui, très important. Et la liberté. Je pense que j'ai besoin de cet espace, j'ai besoin de construire, de monter sur les sommets. Les sommets me donnent de l'énergie et j'ai besoin d'aller chaque fois sur les sommets. Les sommets sont des défis, mais sont un besoin vital. J'ai besoin de construire. Je pense que mon accident a décuplé ce besoin de construire chaque jour.
Vous êtes chef d'entreprise aujourd'hui, très court hein, comme réponse, parce qu'on va en parler dans la deuxième partie. Avant votre accident, vous imaginiez ce parcours-là ?
Jamais.
C'était quoi votre plan de vie, très rapidement ?
Je pense que j'avais plus une idée familiale, d'aider oui les autres. J'aidais déjà plein d'entrepreneurs à construire leur entreprise, je mettais en place des systèmes financiers pour que les gens sachent gérer. Mais je n'avais jamais imaginé un parcours comme celui-là, non.
Bon, ben on va en parler de ce parcours et de ce que vous faites aujourd'hui, puis des réalités aussi économiques hein, de l'industrie dans le Chablais et puis de la métallurgie qui est votre domaine. On se retrouve dans un instant.
Blanc, large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Blanc large. Blanc large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Barbara Deprin, on se retrouve pour la deuxième partie de cette émission. Toujours, moi, je n'en reviens pas d'arriver à me concentrer avec ce spectacle gigantesque hein, des montagnes suisses autour de nous. Vous êtes chef d'entreprise, je l'ai dit, avec un ancrage fort dans le Chablais. Hein. Votre entreprise est à Villeneuve, vous faites partie du groupement des entreprises du Chablais, aussi la CVCI, on va en parler. L'ancrage régional d'abord, c'est comment vous qualifieriez le tissu économique chablaisien qui est assez varié, mais est-ce qu'il est fort, est-ce qu'il est fragile, est-ce qu'il est assez divers pour être résilient ?
Je pense que comme beaucoup de terrains industriels aujourd'hui, on s'interroge quand même sur l'industrie, son impact avec toutes les nouvelles dénominations environnementales. Ça pose des questions. On a aussi besoin d'avoir un terrain économique qui fonctionne. Et le Chablais, à mon avis, a toute sa carte à jouer. Il y a une diversité assez marquée. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont des valeurs importantes. Mais il va falloir garder à l'esprit qu'il faut vraiment mettre aussi les bouchées doubles pour pouvoir le conserver, ce patrimoine. C'est un beau patrimoine, beaucoup de choses ont été faites, il y avait des belles valeurs, mais le monde va vite aujourd'hui et il faut garder le pied dans cette vitesse-là.
Vous avez parlé des contraintes ou du moins des réglementations environnementales. On peut se rebeller ou comprendre qu'elles sont nécessaires. Quelle est votre position ?
Alors moi, je suis toujours pour construire, hein, avec... Après, je pense qu'il y a des choses qu'on pourrait simplifier, notamment la documentation, tout ce qui est administratif, c'est devenu extrêmement lourd pour les entreprises. Ça n'a aucune valeur ajoutée vraiment pour elles. Aussi, il y a une méconnaissance pour produire. Il faut de l'énergie, il faut certaines choses. Je suis bien placée pour le savoir. Dans le domaine de la métallurgie, on emploie beaucoup d'énergie, mais si on n'a pas cette énergie minimum, on ne fait rien. On ne peut pas couper si on n'a pas, on n'utilise pas.
C'est un des secteurs à l'échelle mondiale hein, les plus voraces en consommation d'énergie.
Alors oui, vorace aussi, mais on fait très attention. Il y a très longtemps, on n'a pas attendu l'avènement des mouvements écologistes pour économiser la matière, économiser l'énergie. On n'utilise que le strict minimum nécessaire à nos productions. Donc ça aussi, c'est tout un discours qui apparaît aujourd'hui. Aujourd'hui, on est montré du doigt, mais on a toujours été très économique. On a toujours fait très attention à l'évolution de nos métiers, de l'évolution de nos machines, à la gestion de la matière. C'est très important.
Bon, allez, partons tout de suite sur la métallurgie. métallurgie. On reviendra après sur le Chablais, mais c'est aussi presque aussi vieux que l'humanité. On a dénommé d'ailleurs des grandes ères de l'histoire des humains à partir des métaux, hein, l'âge du fer, l'âge du bronze, etc. Les alliages qui font que ce domaine-là progresse et fait progresser l'humanité. Mais il y a cette question de l'extractivisme. Hein. Aujourd'hui, alors certes, dans le monde de la métallurgie, on recycle tout. Hein, le métal, par définition, peut être fondu puis réutilisé, mais ça n'empêche pas une extraction toujours plus forte, toujours plus grande. Comment vous voyez ça ?
Alors moi je pense que comme les matériaux sont recyclés, de toute façon tous les matériaux aujourd'hui qu'on extrait, que ce soit ce qui est métallurgique ou pas, ça demande de toute façon une extraction. Le monde aujourd'hui s'est emballé, c'est clair qu'il faut avoir une gestion de non-gaspillage, c'est surtout ça je pense qu'il faudrait axer, c'est sur le non-gaspillage et la réutilisation des matériaux pour pouvoir aller plus loin. Le fait de devoir extraire, bien sûr. Mais on n'y échappera pas, on ne peut pas retourner à l'âge de pierre. Mmh. On est obligé d'avancer avec nos mondes, mais peut-être...
On dit souvent, on a un monde fini, hein. On a des extractions qui ont forcément un terme. On ne pourra pas extraire pour l'éternité, ce qui est sorti de la terre n'y retourne pas. Donc alors moi je ne vous parle pas de votre entreprise, hein. C'est à l'échelle large, il y a une course en avant quand même, parce que même si on recycle, on continue d'extraire.
On continue d'extraire, mais on recycle de plus en plus. On utilise de mieux en mieux les matériaux aussi. On les comprend mieux. On apprend aussi à moins polluer pour les recycler. C'est aussi tout cet avantage-là. De quoi on aura besoin demain ? Ni vous ni moi, on peut le savoir. Je pense que personne n'a la boule de cristal pour le monde de demain. Par contre, déjà, essayons d'optimiser ce qui est aujourd'hui.
Dans une entreprise comme la vôtre, vous faites de la métallurgie, alors ce n'est pas des grandes fonderies, ce n'est pas de la sidérurgie, c'est de la métallurgie de précision, hein, plutôt des petites pièces si j'ai bien compris. Vous utilisez une grande part de métaux recyclés ?
Alors on utilise des métaux recyclés, on utilise de tout. Bien évidemment, il y a aussi des contraintes par rapport à nos clients. On travaille pour tout genre de secteur. De la haute...
Faites du sur-mesure, hein. On vous demande, nous on a besoin de ça.
Exactement. Alors chez nous, on n'est pas un magasin, comme il y aurait des grands magasins qui vendent des pièces métalliques. Pour nous, tout ce qui est commandé est sur mesure uniquement, avec des secteurs précis, tout ce qui est de la construction, ce qui est de l'industrie, ce qui est du tech, ce qui est de la mobilité. Tout ce qui est des trains, des avions, même les drones, hein, aujourd'hui font partie. Donc, on a chaque fois aussi des évolutions. Qui aurait pu penser qu'on en fabriquerait pour des drones aujourd'hui ? Il y a 10 ans en arrière, on fabriquait encore des pièces plutôt pour les trains, pour l'aérospatiale, etc. Tout évolue très, très vite. Il faut s'adapter, trouver le meilleur matériau. Le métal est un matériau parmi tant d'autres, mais il faut chaque fois être très scrupuleux. Je ne crois pas au tout métal ou tout au bois. Aujourd'hui, justement, il y a beaucoup de discussions qui se font dans la construction. On est justement dans un bel écrin de beauté qui a été fait là au sommet de cette montagne avec un choix des matériaux qui est très judicieux. Un mélange de bois, de métal, c'est l'harmonie des matériaux qui était l'harmonie. Et de béton, tout à fait. Mais c'est cette harmonie-là. Il faut prendre tout ce qu'il y a de bon dans chacun.
Un mot encore sur ce secteur au sens large, volontiers exportateur, enfin quand je dis volontiers, peut-être pas majoritairement, vous allez le dire pour votre entreprise propre, mais ça fait partie de ces entreprises qui sont dépendantes des exportations, et donc ça veut dire fragile par rapport à la marche du monde, hein, le Brexit, la politique de Trump aujourd'hui, la concurrence entre, enfin la guerre économique qui semble se mettre en place entre l'Union européenne et les États-Unis, c'est une inquiétude pour vous ?
Alors, je pense que dans toute contrainte ou tout ce qui se passe en général dans le monde, il y a chaque fois des opportunités. Moi, j'imagine plein de possibilités. Effectivement, la conjoncture actuelle interroge. Il faut être prudent, il faut regarder un tout petit peu ce qui se passe, être vigilant.
On est en plein dedans, mais le Brexit, par exemple, ça a eu une conséquence sur le cahier de commandes ?
Tout à fait. Il y a des entreprises qui ont eu de la peine à passer des pièces métalliques simplement pour passer les frontières. Donc, ils ont décidé de les produire sur place, notamment en Angleterre. Et on a dû accepter de perdre certaines pièces. Il y a chaque fois un impact. Après, ça donne peut-être d'autres champs. Il y a d'autres entreprises qui, justement, grâce à ces choses qui nous connaissent. Il faut savoir quand même que l'industrie suisse est tributaire de ce qu'on fabrique aussi pour l'étranger. On n'a rien dans nos sous-sols. on n'a rien d'autre qui nous permet de faire de la valeur ajoutée. Et c'est aussi ce qui tient notre économie. Donc, il faut la conserver.
Vous avez un œil sur la politique du Conseil fédéral. Vous entendez leur confiance ou leurs inquiétudes avec vous-même, confiance ou inquiétude ?
Je ne suis pas forcément alignée pour tout ce qui est dit ou tout ce qui est fait. Je pense que j'ai ma propre opinion. Par contre, une chose est sûre, il faut défendre l'industrie, défendre nos valeurs ajoutées, il faut défendre notre économie.
Bon, j'aimerais parler un peu de votre engagement dans le monde de l'économie vaudoise. On a parlé du groupement des entreprises du Chablais. J'aimerais parler un peu de la CVCI. Vous êtes membre de la CVCI. Vous êtes d'ailleurs dans la commission sur l'environnement, sur la durabilité. Donc, tout ce qu'on vient de discuter, évidemment, vous y pensez, vous y travaillez. J'aimerais parler un peu de la femme quand même, hein, parce que j'ai regardé, il y a une statistique qui est sortie il y a quoi, 2 jours, hein, avant qu'on enregistre, sur les femmes chefs d'entreprise. Alors, ça progresse, mais lentement. Hein. On voit dans le monde politique, dans le monde, dans toutes sortes de secteurs, on voit progresser la place des femmes. Dans le monde des entreprises aussi, mais pas tant que ça. Et puis, j'ai vu que dans les secteurs, il y a des secteurs où il y a plus de 50% de femmes qui sont chefs d'entreprise. C'est le social, c'est pas de surprise. Hein. C'est le social, c'est les vétérinaires. Ça m'a un peu plus surpris. Et puis, il y en a d'autres qui sont très mauvais élèves. C'est le cas de votre secteur, hein. L'industrie des machines, la métallurgie. Là, je crois que c'est autour de 14-15%. Donc, vous êtes une exception ?
Exception, oui et non. En fait, par hasard, j'ai eu cette configuration de champ des possibles et je l'ai saisie. J'ai trouvé que c'était une opportunité incroyable à prendre, à développer ce secteur et j'ai fait des rencontres extraordinaires grâce à ça.
C'est important d'être femme pour vous dans ce secteur-là. Vous avez, on parle toujours des femmes en politique, hein, qui ont un rôle moteur, en fait, un rôle pour montrer aux petites filles, voilà, c'est possible, votre carrière pourra se faire dans ce sens-là. Vous êtes médiatisée, pas seulement chez nous. Vous avez aussi cette idée que vous avez un rôle pour les jeunes filles, pour les inciter à avoir des carrières, même dans des carrières très masculines.
Humblement, j'espère apporter ma pierre à l'édifice pour que tout le monde pense que tout est possible. Et il faut toujours y croire. Je pense que c'est vraiment une devise. Si on m'avait dit à l'avance, j'y aurais pas cru, probablement. Mais je pense que c'est une erreur. Souvent, on se bloque soi-même. Il faut simplement, alors par contre, il faut acter. Il faut oser, il faut avoir, comment dire, mettre les actions en place et croire à ses ambitions.
Vous avez eu du mal, parce que j'imagine que vos concurrents, vos partenaires, vos clients sont à 90% des hommes. Ça joue ou pas ?
Oui, alors écoutez, moi j'ai beaucoup de chance.
Au début, hein, maintenant ça fait quelques années quand même que vous êtes dans le business, donc on doit vous connaître, mais au début on vous a...
Alors, il y avait la curiosité du démarrage, bien évidemment. Déjà, je venais pas de leur secteur, hein, je venais du monde des finances. Donc, c'était déjà une interrogation pour ce monde-là. Comment ça se fait ? Puis, comment ça se fait qu'une femme s'interroge et s'intéresse à ce milieu-là ? Mais très vite, j'ai croché, j'ai eu des gens... extraordinaires qui m'ont raconté leur parcours, notamment la construction. On me disait beaucoup, toi tu verras, la construction c'est vraiment un monde d'hommes, t'as aucune chance. Et finalement j'ai rencontré des gens très bienveillants qui m'ont expliqué beaucoup de choses pour que je comprenne aussi bien leur monde. Très vite on a fait plutôt des partenariats, très vite les gens m'ont entourée, m'ont plutôt ouvert les portes. Donc voilà, je suis d'un tempérament peut-être aussi assez fort, donc ça marche aussi avec un monde d'hommes, ce qui est plutôt une chose. Je trouve que c'est justement une grande réussite de pouvoir faire avancer les choses pour tout le monde.
Bon, c'est une bonne nouvelle qui est plutôt un regard accueillant et bienveillant, hein, devant non seulement la nouveauté d'une femme, mais en plus d'une femme qui n'est pas à la base du métier, de ces métiers de la construction ou des machines dont on parlait. Votre engagement, je reviens à la CVCI, c'est la fêtière, hein, des PME, même des grandes entreprises vaudoises, c'est commerce et industrie, plus de 3000 membres je crois, enfin, c'est assez énorme sur le canton de Vaud. Vous voyez une cohésion, une cohérence entre ce, je parlais du tissu économique chablaisien avant, on va élargir le champ, le canton de Vaud, il y a quelque chose de commun qui marque cette économie vaudoise ?
Ah, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passent justement au niveau du canton de Vaud avec une vraie volonté. Mon entrée dans cette chambre de commerce, c'était aussi pour défendre l'industrie. C'est justement une branche à laquelle je crois, toute industrie confondue, bien sûr la mienne, mais aussi les autres. Je pense qu'il y a une grande méconnaissance aussi du public et on n'en parle pas assez. On parle beaucoup de plein de professions, mais le niveau de l'industrie, parfois j'ai des gens qui arrivent à l'entreprise et ils ont l'impression qu'on a encore la terre battue. Ils nous voient encore à l'époque de Germinal. Alors j'aimerais bien aussi qu'on casse les clichés, qu'on voie la réalité. On fait des pièces pour des trucs extraordinaires. Et j'invite souvent le grand public à se dire, mais vous allez dans les restaurants, vous croyez que vos plats sont préparés sur quoi? C'est préparé sur du métal. Et tous les métiers de l'industrie en général, c'est des choses qui participent à la vie du quotidien, à la vie de toutes ces personnes qui en fait ont la grande méconnaissance.
Un point commun de tous les secteurs économiques en Suisse, c'est la relève, hein, c'est trouver des apprentis, c'est trouver des gens qui s'engagent dans ces métiers-là. Vous en êtes où ?
Alors, on travaille aussi, on œuvre beaucoup, notamment avec le GIM, qui est le groupement de l'industrie des métiers. Je participe à cette promotion des métiers, je crois aux métiers du métal. On a une vision souvent très unilatérale quand on informe les jeunes avec des métiers très connus, mais on n'a pas de vision sur ce que peuvent offrir ces métiers-là. Et je pense qu'il faut changer, il faut ouvrir les champs. Il y a vraiment des métiers pour tout le monde. Dites-moi pas qu'il n'y a pas de petits garçons et de petites filles qui n'aiment pas construire. Moi-même, j'adorais construire des Legos, des mécanos. Je trouvais ça formidable. J'ai beaucoup parlé automobile avec mon grand-père. Donc, il y a toutes ces choses-là. Je pense que ce n'est pas une question de genre. C'est une question d'ouverture d'esprit. Il faut qu'on parle aux enfants de manière générale et puis qu'on leur ouvre surtout beaucoup de facettes et qu'on ne les mette pas sur des voies de garage.
On est à la fin de cet entretien. Merci à vous, Barbara Depram.
Merci.